Chapitre 39. Le nouveau château. Le soleil essayait de se faufiler entre les épais rideaux de velours bleu roi. Après de longues minutes, il y parvint enfin, et un petit rayon se glissa par la grande fenêtre et s'introduisit dans la chambre. Il commença par faire briller les moulures dorées du plafond, puis descendit se poser un instant sur la cheminée de marbre rose, dans laquelle des braises achevaient de se consumer, éclaira une bonne moitié de l'épais tapis recouvrant le parquet entièrement marqueté, avant de s'arrêter sur la joue de Zizo. Le garçon était encore profondément endormi dans son grand lit de cèdre blanc. Il se retourna, à peine gêné par la brûlure légère du soleil d'hiver. L'astre dut insister, remonter sur son visage, éclairer son nez, frapper l'une de ses paupières fermées, puis l'autre, pour que Zizo les ouvre enfin. Elles battirent comme des papillons affolés, et presque aussitôt se dirigèrent vers la pendule de cuivre posée sur le chiffonnier d'acajou laqué. 9h20. Zizo sauta du lit en repoussant les draps. « Oh non, j'ai oublié de me réveiller !» De l'autre côté de la chambre, deux formes grognèrent. Agnel et Solario étaient eux aussi endormis, chacun dans son lit. Ils se retournèrent, entr'ouvrirent leurs yeux, puis les refermèrent tout en se blottissant dans l'édredon, le plus près possible du mur tapissé de fleurs de lys, pour rechercher un peu de calme et d'obscurité. Les deux ministres étaient revenus depuis 4 semaines de leur expédition sur l'Albatros jusqu'à la mer, mais ils peinaient encore à se remettre de la fatigue et s'accordaient souvent de longues grasses matinées. Le 4e lit de la pièce, celui d'Akan, était vide. Désormais, dans le nouveau château, garçons et filles dormaient au maximum à 4 par dortoir. Le nouveau château comptait 2300 pièces. Ceux qui le souhaitaient pouvaient même avoir une chambre, seuls ou à deux, mais la plupart préféraient dormir avec leurs meilleurs amis. Les chambres étaient grandes, incroyablement luxueuses, spacieuses, et comportaient presque toute une cheminée. Une fois les corvées de coupes d'arbres passées, plus aucun ado n'avait souffert du froid pendant l'hiver. La terrible expédition du Louvre à Versailles semblait déjà oubliée, même si elle s'était déroulée il y a seulement un mois. Pendant le trajet, à tirer les 18 chariots sous la tempête de neige et plus encore lors de la traversée épique du lac gelé, tous les ados avaient maudit l'entêtement de Génor. Qu'allait-on faire si loin de Paris? Pourquoi prendre de tels risques? Une fois arrivés, ils avaient compris. Le nouveau château était immense, confortable, chaud, à l'abri des intempéries. Eugénor avait eu raison, une fois de plus.
« J'ai rendez-vous avec Alix à 9h30 !»
cria Zizo en claquant la porte de la chambre derrière lui, sans se soucier de l'envie d'Agnel et de Solario de prolonger leur nuit.
« C'est son jour d'inspection, et je dois l'accompagner !»
Seuls lui répondirent des grognements d'ours de Solario et des battements de bras d'Agnel, tels des ailes de soie sous les draps. Zizo courait à en perdre haleine. Il avait pensé que, à 14 ans, il se lasserait du plaisir de patiner dans les allées de marbre du château, de se laisser glisser en dérapage contrôlé à chaque croisement de couloir, et même de dévaler sur les fesses les grands escaliers de pierre lisse. Mais non, il adorait toujours autant. Et, après un mois, il commençait même à se repérer dans le labyrinthe du nouveau château. Il avait rendez-vous avec Alix dans l'aile du Nord, aussi appelée « aile des nobles », mais désormais rebaptisée « l'aile des singes ». Dans le nouveau château, on ne parlait plus de pavillon, mais d'aile. Il parcourut aussi vite qu'il le put l'enfilade de salons, tous plus superbement décorés les uns que les autres, couverts de tableaux, de sculptures et de dorures, salles de Vénus, de Diane, de Mars, de Mercure, d'Apollon, avant de surgir dans l'incroyable galerie des glaces. Une enfilade de lustres de cristal pendait miraculeusement du plafond arrondi et se multipliait à l'infini dans les miroirs. Les milliers de bougies rivalisaient d'éclat avec les rayons de soleil qui traversaient les larges fenêtres voûtées et illuminaient les alignements de statues d'or, le parquet tressé comme un gigantesque tapis de roseaux et le plafond si bleu qu'on l'aurait cru ouvert sur le ciel. Zizou traversa la galerie à la même allure, en se forçant à ne pas ralentir à mi-distance au moment de passer devant la chambre du roi. C'était là qu'Augénor avait emménagé, seul, dans le plus bel appartement du château. Sa chambre donnait directement sur la galerie des glaces ou à l'extérieur sur la cour des serres. « Un nom prédestiné, » pensa Zizou. Comme si Augénor avait tout prémédité. Puggy surgit de la chambre du roi à ce moment précis. Lui aussi avait droit à son panier royal, sa gamelle royale, sa babale royale. Le carlin essaya de rattraper Zizou en jappant derrière lui, mais le chiot, gavé de croquettes de riz par son maître en fauteuil roulant, tira la langue au bout de 10 mètres de course et maîtrisa si mal le dérapage contrôlé qu'il termina son bref sprint les pattes en l'air contre la statue d'un empereur romain dont la tunique ne bougea pas d'un pli. Les appartements du roi jouxtaient ceux de la reine. C'était là qu'Alix aurait dû habiter, mais elle avait profité du déménagement pour modifier le protocole et avait décidé que la reine pouvait désormais dormir dans une chambre normale avec 3 autres copines, Sabi, Lunella et Estive. 9h29. Zizou atteignait l'aile des singes. Il aperçut Alix, sa couronne de lys sur la tête, au bout du couloir. Il décida de courir plus vite encore.
« Même pas en retard !»
cria-t-il à plein poumon, alors que le bruit de sa course résonnait aussi fort que les battements de son cœur. Il allait un peu trop vite pour pouvoir freiner. Peu importait. Il atterrit dans les bras de sa reine, façon Puggy, sans coussin antidérapant sous ses pieds, et tous les deux terminèrent les jambes en l'air, en roulé-boulé au bord de l'escalier. Une lourde porte de bois s'ouvrit devant eux. Isalie s'en sortit, furieuse, le regard en arbalète et le doigt devant sa bouche. Ici, dans l'aile des singes, le silence était sacré. Zizou et Alix se retinrent de rire, se relevèrent et penchèrent la tête. Par la porte ouverte, ils aperçurent les gradins jaunes de l'opéra du château. On aurait cru l'intérieur d'un ananas géant qui aurait été sculpté par des milliers de doigts de fées. Une 50aine d'ados s'y tenaient et chantaient. Seul sur l'estrade, Soutim battait des mains pour diriger le chœur. Ils reconnurent « Nous les enfants du nuage », l'hymne que le poète-musicien avait composé en hommage à Marie-Lune et dont il espérait tirer un opéra entier. Entre les rangées de fauteuils rouges, Zizou et Alix reconnurent Sabi, qui leur adressa un clin d'œil amusé. Elle était vêtue d'un simple jean et d'un t-shirt jaune où étaient dessinés 2 yeux noirs et un sourire, les cheveux attachés en queue de cheval, alors que beaucoup d'autres singes avaient adopté des tenues étranges. Veste brodée pour les garçons, robe à corset pour les filles et, pour tous, cheveux blanchis au talc de farine. Les plus élégants portaient même des perruques en crinière de poney alezan. Zizou et Alix se retinrent une nouvelle fois d'éclater de rire, avant qu'Isalis, excédée, ne leur claque la porte au nez. Ils se relevèrent.
« Elle commence mal ton inspection, Majesté, » commenta Zizou.
« Depuis qu'on est au nouveau château, les ministères fonctionnent très bien sans moi, tu sais. Ce n'est même pas certain qu'on ait encore besoin d'une reine. Viens, on sort, on va profiter du soleil. »
Ils poussèrent la première porte donnant sur l'extérieur. Comme chaque fois, ils furent bluffés par la beauté du parc. Ils admirèrent la grande fontaine au premier plan, le grand canal d'eau profonde au second, entouré d'une longue et large allée que Vanille, dès le printemps, transformerait en champ de colza, de maïs, de blé et d'arbres fruitiers. Le parc de Versailles ressemblait au verger des Tuileries, mais en 10 fois plus vaste. Il était parsemé d'une 30aine de bassins, ronds ou rectangulaires comme des piscines, où il n'y avait qu'à puiser l'eau et bordé d'une forêt où il n'y avait qu'à se servir en bois, en champignons, en baies, en gibier. Il n'y avait besoin ni d'électricité ni d'aucune autre énergie pour survivre ici. Un soleil rasant inondait le parc. Zizou et Alix longèrent le grand canal, dégelé depuis quelques jours. Des canards et des oies sauvages revenaient y patauger. Après 20 bonnes minutes de marche, ils arrivèrent enfin au petit Trianon, la seconde étape de leur inspection. Le petit et le grand Trianon étaient 2 petits châteaux construits à l'autre extrémité du parc. Le conseil avait décidé de les transformer en prison. C'était ici que Mordelia et Bill avaient été enfermés,
Après être arrivé au nouveau château, escorté par Hakan, Sabi, Alix, Zizo et tout l'équipage de l'Albatros. Le conseil devait se réunir aujourd'hui même pour décider de ce qu'on allait faire de la sorcière et de son inséparable compagnon. Dès que Zizo et Alix s'approchèrent, Novak et Helios, les soldats de garde devant le petit Trianon, casquettes sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, croisèrent leurs bouts pour signifier que toute entrée était interdite.
« Ordre du grand cerf !» déclama Novak. « Personne ne doit entrer !»
Alix aurait pu protester, argumenter en rappelant que le grand cerf l'avait aussi chargé d'inspecter chaque ministère, qu'elle était encore reine et que le grand cerf n'avait pas davantage de pouvoir qu'elle. Mais elle n'insista pas. Elle n'avait aucune envie de se retrouver en tête à tête avec Mordelia dans la prison du petit Trianon. Elle chercha des yeux si elle apercevait d'autres gardes. Mais Novak et Helios semblaient seuls. Les autres devaient encore dormir, ou se réveiller dans la galerie des batailles de l'aile du midi où les soldats s'étaient installés. Retour au château. Sur sa droite, Alix jeta un coup d'œil au hameau de la reine, la plus jolie partie du parc. Elle s'attarda sur la ferme miniature, les lacs de poche, les rochers artificiels d'où coulaient de petites cascades, l'escalier en colimaçon de la tour de Marlborough, qui dominait le hameau. Dès que le printemps et les premières chaleurs reviendraient, ce petit coin de paradis serait pris d'assaut par les ados. Pour l'instant, il servait surtout de terrain d'entraînement aux champions les plus motivés pour le tournoi de l'étoile. Hakan, même s'il n'y participait pas, en tant que secrétaire général de la paix, aimait aussi s'y entraîner, y courir, soulever des pierres ou escalader les petites falaises. Il y retrouvait Louponero. L'enfant sauvage avait finalement accepté l'invitation des ados et passé les semaines les plus froides de l'hiver, libre, mais à l'abri, dans l'une des chambres les plus isolées du château. Il occupait ses journées à lire, la seule activité qui lui manquait dans la forêt. Alix et Sabi avaient même dû lui donner des cours pour qu'il se souvienne de la façon dont on associait les lettres pour comprendre les mots et les phrases imprimées sur les pages des livres. La ferme miniature avait également beaucoup plu à Crisante. Elle était l'une des rares à avoir choisi de dormir seule dans sa chambre.
« Pas seule, » affirmait-elle, « avec Lali. »
Quand elle n'y restait pas enfermée, elle passait ses journées à jouer dans la ferme de poupées, sans parler à personne. Alix et Zizo avaient bifurqué et se rapprochaient du nouveau château par l'allée des oies. Philao et Florentine traversaient eux aussi le parc, chargés de lourdes caisses de fruits. Vanille les attendait devant l'entrée principale, en haut des marches, près du bassin de Saturne. La ministre du jour et de la nuit, serrée dans une veste et une jupe droite de la même couleur grise que l'eau du bassin, perchée sur d'étranges chaussures qui la faisaient mesurer 8 centimètres de plus, surveillait les allées et venues et notait tout sur un cahier.
« Je ne vais quand même pas demander à Vanille l'autorisation de jeter un œil à ses comptes !»
souffla Alix à Zizo. Il savait que la ministre du jour et de la nuit dormait moins de 6 heures par nuit et avait réorganisé en un temps record toute la vie quotidienne au nouveau château. Les stocks de nourriture étaient entreposés dans la salle de l'abondance, les repas servis au grand couvert et tout le reste des plannings et corvées étaient gérés à l'hôtel du grand contrôle, dans le prolongement de l'aile du midi, où son ministère avait été installé. Ils se dirigèrent vers la dernière aile, l'aile des ministres, de l'autre côté du château, où étaient installés les savants. Zizo et Alix traversèrent la cour d'honneur. La vaste place pavée était fermée de chaque côté par une haute grille de fer. Accrochée sur l'unique porte, un panneau barrait l'accès à l'aile des savants. Expérience en cours, défense d'entrée. La reine et Zizo s'approchèrent tout de même et frappèrent. Au bout de quelques minutes, elle s'ouvrit enfin, et Liu en sortit, visiblement très occupé, ses lunettes posées de travers sur sa tête ronde.
« Ah, Alix, on se voit dans 1 heure au conseil. Je suis pressée, là. »«
Je venais juste. »«
On en reparle tout à l'heure, »
l'interrompit le savant en redressant ses lunettes rondes.
« Je voudrais pouvoir annoncer au conseil que j'ai terminé, mais il me reste peu de temps. »
« Décidément, » pensa Alix. Son inspection tournait au fiasco. Elle allait protester pour la forme, mais 2 fenêtres s'ouvrirent à l'étage. La tête de Lunella apparut à la première, celle de Valère à la seconde.
te vexe pas, majesté,
fit la loli-girl.
C'est pas que Liu Shu ne veut pas te laisser entrer, mais on galère à essayer de lire les bandes vidéo des caméras de surveillance de la clinique des immortels, celles qu'Agnel et Solario ont rapportées sur l'Albatros.
Mais ça nous met une pression pas possible,
continua Valère.
Après notre raté sur les hiéroglyphes, on joue notre réputation. On essaie de les lire sur toutes sortes de vieux ordinateurs, mais sans électricité, on pédale.
Lunella insista.
On va y arriver, marinette, promis. Ces bandes vidéo, c'est la clé qui explique le mystère des Prémas. Comment ils ont survécu et tout. Du moins, Agnel et Solarion en sont certains. Ah tiens d'ailleurs, ils arrivent derrière vous.
Les fenêtres de l'aile des savants se refermèrent. Alix et Zizo se retournèrent. Personne, à part eux deux dans l'immense cour d'honneur. Il leur fallut attendre 5 secondes supplémentaires pour voir Agnel et Solario surgir derrière la grille. Réveillés, douchés, habillés, coiffés. Alix, surprise, marqua un temps d'arrêt. Elle avait toujours du mal à réaliser que Lunella et son frère communiquaient par télépathie et pouvaient de cette façon anticiper de quelques secondes le moment où l'autre apparaîtrait.
« Vous venez voir Pou avec nous ?»
proposa Solario. Alix accepta avec joie. Solario et Agnel étaient les deux premiers ministres qui acceptaient de partager un peu de temps avec elle. Pou avait été installé dans un grand appartement au centre du nouveau château baptisé « Salon de l'œil de bœuf ». L'enfant prématuré était d'ailleurs fasciné par la lumière qui entrait par la lucarne ronde qui avait donné son nom à la pièce. Quand ils poussèrent la porte de la chambre, l'enfant prématuré était comme toujours assis sur le grand lit, occupé à regarder tourner l'aiguille de sa yaque. Il leva la tête. Son visage s'éclaira dès qu'il aperçut Solario.
« Oh ! Oh !»
Avant même qu'ils aient le temps d'entrer dans la pièce, 4 pattes se faufilèrent entre leurs 8 jambes. Puggy surgit du bout du couloir et courut ventre à terre sauter sur le lit. Si Pou semblait content de retrouver Solario, il parut plus ravi encore d'accueillir le chien sur ses genoux.
« Wa, cam ! Wa, cam ! »
Désormais, Pou parvenait à reconnaître et nommer par une syllabe de son invention une dizaine d'autres ados, dont Solario, Ro, Honora, Nono, qui le nourrissait, Lunella, Lala, qui tentait de lui apprendre des formes élémentaires d'hygiène, comme se laver les mains ou prendre un bain, ou Sabi, Abi, qui lui apprenait toutes sortes de bêtises, comme reconnaître le parfum des lollipops, les yeux fermés, avant de les lui donner à sucer. Pou laissa le carlin lécher ses mains et ses pieds nus et éclata d'un rire de bébé. Le Préma, comme on l'appelait dans le nouveau château, paraissait heureux de sa nouvelle vie, sans regret pour ses anciens camarades de la clinique des immortels. Pou était doté d'un caractère calme, docile et joyeux. Il aimait tout le monde. L'inverse n'était pas tout à fait vrai. Beaucoup d'ados du château le considéraient, au mieux, comme un animal un peu plus intelligent qu'un chien ou qu'un poney, et à peu près aussi affectueux. D'autres, à l'inverse, se méfiaient de lui, s'écartaient quand il passait devant la porte ouverte du salon de l'œil de bœuf ou quand Pou, bien escorté, se promenait dans le parc. Ils le voyaient comme une bête curieuse, ni humaine ni animale, une créature bizarre et donc forcément dangereuse. Agnel, à son tour, avança dans l'appartement.
« Zo, zo !»
cria le Préma, content de retrouver un nouvel ami.
« Cam, cam, cam !»«
Ce gosse est un génie !»
commenta une voix féminine derrière eux. Sabi venait de les rejoindre.
« Vous avez entendu ?»
continua la loli-girl qui avait abandonné la soporifique chorale de la comédie musicale de Soutim.
« Il dit « Zo, zo !» Il a compris qu'Agnel ressemble plus à un héron ou à un pigeon qu'à un être humain. Abi !
Fit Pou en battant des mains. Puggy se roulait sur le dos, boxant les édredons du bout du museau. Dès que Sabi approcha, le Préma délaissa le chiot et ferma les yeux. Il était habitué au jeu. Sabi sortit 2 lollipops de sa poche, une rouge parfum pimento et une verte, Kill Mint, celle que Pou adorait. Elle se tint à 1 mètre du Préma, mains écartées, une friandise dans chaque. Sans hésiter, Pou tendit la main vers la droite, la sucette verte. Sabi la lui offrit,
Il ouvrit les yeux et la fourra avec gourmandise dans sa bouche.
« Et cet odorat de malade qu'il a !»«
Bon, bon !» commentait Pou en suçant avec un plaisir absolu le bâton sucré. Sabi se retourna vers Zizo, la reine et les deux ministres, triomphantes.
« Vous avez entendu cette fois ? Il dit « bonbon ». Il s'est prononcé un vrai mot. Alors, c'est qui la plus forte ?»
Ils restèrent là, tous les cinq, à discuter, à essayer de communiquer avec Pou, à lui montrer des images sur un imagier de bébé, sans savoir ce qu'il comprenait réellement. Combien de minutes s'écoulèrent? Un quart d'heure? Une demi-heure? Avant que Sabine observe la grande horloge de bronze sous la fenêtre en œil de bœuf et ne lance.
Au fait, Majesté, et vous aussi, messieurs les ministres, vous ne deviez pas assister au conseil du château?
Tous fixèrent horrifiés l'aiguille de la pendule. 11h40 ! Le conseil avait commencé depuis plus de 10 minutes. Il l'avait complètement oublié.
« Par Marie-Lune !»
cria Solario.
« Augénor va nous tuer !»
Et tous les trois, suivis de Puggy, qui adorait se faufiler entre les jambes des ados dans les couloirs du château, se mirent à courir en direction de la reine.